Je ne me suis jamais considéré vraiment comme un résistant. Résistant, c'était l'action.
Vercors.
Ce que je voulais dire, c'était vraiment ce qui était ma préoccupation essentielle. C'était la liberté d'expression que je voulais défendre avec tous les moyens que j'avais. Et donc, l'écriture et l'édition.
Ça peut pas faire de mal.
Parce que ça a été aussi important pour moi d'avoir fondé l'édition de Minuit que d'avoir écrit Le Silence de la mer. J'aurais pu ne pas écrire Le Silence de la mer si j'avais eu l'idée d'édition de Minuit sans Le Silence de la mer, ce qui ne s'est pas évidemment produit. Mais si j'avais trouvé des écrits et que je les avais édités, ça m'aurait conduit tout aussi bien.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
En un autre temps, on exilait des gens coupables de préférer la Phèdre d'Euripide à celle de Racine, gloire de la France, prétendait le tyran d'alors. Aujourd'hui, on interdit la physique d'Einstein, la psychologie de Freud, les chants d'Isaïe, défense de réimprimer Meredith, Thomas Hardy, Catherine Mansfield, Virginia Woolf, Henry James, Faulkner, tous les autres que nous aimons. N'exposez plus dans vos vitrines Shakespeare, Milton, Keats, Shelley, les poètes et romanciers anglais de tous les temps, prescrits par ordre de la propagande allemande, le syndicat des libraires. Dès le mois de septembre 1940, le syndicat des éditeurs signait une convention de censure avec les autorités d'occupation. Mais il existe encore en France des écrivains qui refusent les mots d'ordre. Ils sentent profondément que la pensée doit s'exprimer. Pour agir sur d'autres pensées sans doute, mais surtout parce que s'il ne s'exprime pas, l'esprit meurt. Voilà le but des éditions de Minuit. La propagande n'est pas notre domaine. Nous entendons préserver notre vie intérieure et servir librement notre art. Peu importe les noms, il ne s'agit plus de petites renommées personnelles. Peu importe une voie difficile, il s'agit de la pureté spirituelle de l'homme. Tel est le manifeste des éditions de Minuit, fondé en pleine guerre par deux écrivains engagés, le journaliste Pierre de Lescure et un certain Vercors, de son vrai nom Jean Brulaire, qui fut d'abord dessinateur et graveur. Cet éloge de la liberté accompagnait en février 1942 la première édition clandestine d'une nouvelle qui deviendra le symbole de la résistance intellectuelle, Le Silence de la mer, que Jean Brulaire signe sous son nom de résistant, Vercors, un pseudonyme inspiré par la beauté des montagnes où, jeune appelé, il rejoint un bataillon de chasseurs alpins.
À la fin de la guerre, je me suis trouvé au pied du Vercors. C'est là que la guerre a pris fin pour moi. Si elle n'avait pas pris fin, à ce moment-là, je serais d'ailleurs monté avec mes hommes là-haut pour y défendre ma liberté. Donc, si vous voulez, lorsque j'ai eu à chercher un nom, évidemment, il n'est pas venu tout de suite, mais assez rapidement, j'ai pensé à ce nom-là, puisque d'une part, je l'aimais, et que d'autre part, il était un peu symbolique de ma propre liberté.
Fondé sur des faits réels, Le Silence de la mer évoque les débuts de l'occupation après la débâcle de 1940, lorsque les habitations françaises sont réquisitionnées pour héberger l'état-major allemand. À cette époque, les vainqueurs comme les vaincus croient encore au code d'honneur militaire, uni par le souvenir commun de la Première Guerre mondiale. C'est à cette période que Jean Brulaire lit les mémoires d'un officier allemand de 14-18, Ernst Junger, qui lui donne l'idée de son personnage principal, un officier cultivé, amoureux de littérature française. Mais bientôt, les persécutions de la Gestapo et les crimes nazis vont définitivement tourner l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire. Certains critiques reprocheront à Vercors son éloge de la résistance passive, alors qu'il était urgent de passer à l'action, à l'appel d'un certain général de Gaulle réfugié en Angleterre. À ces reproches, Vercors répond en se revendiquant, je cite, « un fantassin des lettres au milieu d'une armée de fantômes ». Ce soir, je vous invite à parcourir Le Silence de la mer dans sa quasi-totalité. Écrit en 1941, ce texte à la beauté intuitive présage du pire à venir. Découvrons sous le poids du silence la violence contenue d'une France bâillonnée. Et tentons de comprendre le sens profond de ce silence pour Jean Brulaire, dont le nom d'origine alsacienne signifie « le gueulard ». Cette émission est dédiée à François Brulaire, le fils de Jean. Extrait des éditions Omnibus, publié en 2002.
Monsieur Larosière. Mademoiselle. Votre maison a été réquisitionnée pour loger un officier allemand. Je suis son ordonnance et je viens choisir sa chambre.
Ça doit être une erreur, il n'y a pas de place ici.
La maison est grande.
Oui, mais nous sommes nombreux.
J'ai lu dans le rapport que votre fils est mort à Verdun en 1918 et votre belle-fille en 1932. Vous êtes donc seul à habiter ici avec votre petite fille. Voici l'ordre de réquisition, monsieur. Veuillez me mener aux chambres, je vous prie.
Pour commencer, assistons à l'arrivée d'un jeune officier allemand dans une maison de campagne où le narrateur, un vieil homme, vit en compagnie de sa nièce, une jeune fille de 16 ans. Ce fut ma nièce qui alla ouvrir quand on frappa. Elle venait de me servir mon café, comme chaque soir, le café me fait dormir. J'étais assis au fond de la pièce, relativement dans l'ombre. La porte donne sur le jardin, de plein pied. Nous entendîmes marcher. Ma nièce me regarda et posa sa tasse. Je gardais la mienne dans mes mains. Il faisait nuit, pas très froid. Ce novembre-là ne fut pas très froid. Je vis l'immense silhouette, la casquette plate, l'imperméable jeté sur les épaules comme une cape. Ma nièce avait ouvert la porte et restait silencieuse. Elle avait rabattu la porte sur le mur. Elle se tenait elle-même contre le mur, sans rien regarder. Moi, je buvais mon café à petits coups. L'officier à la porte dit « S'il vous plaît ». Sa tête fit un petit salut. Il sembla mesurer le silence. Puis il entra. La cape glissa sur son avant-bras. Il salua militairement et se découvrit. Il se tourna vers ma nièce, sourit discrètement en inclinant très légèrement le buste. Puis il me fit face et m'adressa une révérence plus grave. Il dit « Je me nomme Werner von Ebernack ». J'ai eu le temps de penser très vite, le nom n'est pas allemand, descendant d'émigrés protestants. Il ajouta « Je suis désolé ». Le dernier mot prononcé en traînant tomba dans le silence. Ma nièce avait fermé la porte et restait adossée au mur, regardant droit devant elle. Je ne m'étais pas levé. L'officier reprit. Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité cela si cela était possible. Je pense mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. Il était debout au milieu de la pièce. Il était immense et très mince. Le visage était beau, viril et marqué de deux grandes dépressions le long des joues. On ne voyait pas les yeux que cachait l'ombre portée de l'arcade. Ils me parurent clairs. Les cheveux étaient blonds et souples, rejetés en arrière, brillant soyeusement sous la lumière du lustre. Le silence se prolongeait. Il devenait de plus en plus épais, comme le brouillard du matin. Épais et immobile. L'immobilité de ma nièce, la mienne aussi sans doute, alourdissait ce silence, le rendait de plomb. L'officier lui-même, désorienté, restait immobile jusqu'à ce qu'enfin je visse naître un sourire sur ses lèvres. Son sourire était grave et sans nulle trace d'ironie. Il ébaucha un geste de la main dont la signification m'échappa. Ses yeux se posèrent sur ma nièce, toujours raide et droite. Il détourna enfin les yeux et regarda le feu dans la cheminée et dit « J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. » Il leva brusquement la tête et fixa l'ange sculpté au-dessus de la fenêtre et dit « Je pourrais maintenant monter à ma chambre, mais je ne connais pas le chemin. » Ma nièce ouvrit la porte qui donne sur le petit escalier et commença de gravir les marches, sans un regard pour l'officier, comme si elle eût été seule. L'officier la suivit. Je vis alors qu'il avait une jambe raide. Je les entendis traverser l'antichambre. Les pas de l'Allemand résonnèrent dans le couloir, alternativement forts et faibles. Une porte s'ouvrit, puis se referma. Ma nièce revint. Elle reprit sa tasse et continua de boire son café. J'allumai une pipe. Nous restâmes silencieux quelques minutes. Je dis « Dieu merci, elle a l'air convenable. » Ma nièce haussa les épaules. Elle attira sur ses genoux ma veste de velours et termina la pièce invisible qu'elle avait commencé à y coudre. Malgré le mutisme obstiné de ses hôtes, l'officier prend bientôt l'habitude de leur rendre visite le soir. Il revint le lendemain soir à la même heure que la veille. Nous prenions notre café. Il frappa, mais n'attendit pas que ma nièce lui ouvrit. Il ouvrit lui-même et dit « Je crains que je vous dérange. Si vous le préférez, je passerai par la cuisine, alors vous fermerez cette porte à clé. » Il traversa la pièce et resta un moment la main sur la poignée, regardant les divers coins du fumoir. Enfin, il eut une petite inclinaison du buste. « Je vous souhaite une bonne nuit. » Et il sortit. Nous ne fermâmes jamais la porte à clé. Je ne suis pas sûr que les raisons de cette abstention fussent très claires ni très pures. D'un accord tacite, nous avions décidé, ma nièce et moi, de ne rien changer à notre vie, fût-ce le moindre détail, comme si l'officier n'existait pas, comme s'il eût été un fantôme. Mais il se peut qu'un autre sentiment se mêlât dans mon cœur à cette volonté. Je ne puis sans souffrir offenser un homme, fût-il mon ennemi. Pendant longtemps, plus d'un mois, la même scène se répéta chaque jour. L'officier frappait et entrait. Il prononçait quelques mots sur le temps, la température ou quelque autre sujet de même importance, leur commune propriété étant qu'il ne supposait pas de réponse. Il s'attardait toujours un peu au seuil de la petite porte. Il regardait autour de lui. Un très léger sourire traduisait le plaisir qu'il semblait prendre à cet examen. Le même examen chaque jour et le même plaisir. Ses yeux s'attardaient sur le profil incliné de ma nièce, immanquablement sévère et insensible, et quand enfin il détournait son regard, j'étais sûr d'y pouvoir lire une sorte d'approbation souriante. Puis il disait en s'inclinant « Je vous souhaite une bonne nuit » et il sortait. Un soir d'hiver, l'officier rentre à la maison trempé par la neige et la pluie. Il vient se réchauffer au coin du feu, se présentant en vêtements civils. Il en gardera désormais l'habitude. Ma nièce tricotait avec une vivacité mécanique. Elle ne jeta pas les yeux sur lui, pas une fois. Moi, je fumais à demi allongé dans mon grand fauteuil douillet. Je pensais que la pesanteur de notre silence ne pourrait pas être secouée, que l'homme allait nous saluer et partir. Mais le bourdonnement sourd et chantant de sa voix s'éleva de nouveau. On ne peut dire qu'il rompit le silence, ce fut plutôt comme s'il en était né. « J'aimais toujours la France, » dit l'officier sans bouger. « Toujours. J'étais un enfant de l'autre guerre et ce que je pensais alors ne compte pas. Mais depuis, je l'aimais toujours. Seulement c'était de loin, comme la princesse lointaine dans les contes pour enfants. » Il fit une pause avant de dire gravement « À cause de mon père. » Il se retourna et les mains dans les poches de sa veste s'appuya le long du jambage. Sa tête cognait un peu la console. De temps en temps, il s'y frottait lentement le crâne d'un mouvement naturel de serre. Un fauteuil était là, offert, tout près. Il ne s'y assit jamais. Nous ne lui offrîmes pas et il ne fit rien, jamais, qui pût passer pour de la familiarité. Il répéta « à cause de mon père ». Il était un grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima Briand. Il croyait dans la République de Weimar et dans Briand. Il était très enthousiaste. Il disait « Il va nous unir comme mari et femme ». Il pensait que le soleil allait enfin se lever sur l'Europe. En parlant, il regardait ma nièce. Il ne la regardait pas comme un homme regarde une femme, mais comme il regarde une statue. Et en fait, c'était bien une statue. Une statue animée, mais une statue. Il sourit et dit, comme si cela avait été une explication, « Je suis musicien ». Une bûche s'effondra dans la cheminée, des braises roulèrent hors du foyer. L'Allemand se pencha, ramassa les braises avec des pincettes. Il poursuivit. « Je ne suis pas exécutant, je compose de la musique. Cela est toute ma vie, et ainsi c'est une drôle de figure pour moi de me voir en homme de guerre. Pourtant je ne regrette pas cette guerre. Non, je crois que de ceci il sortira de grandes choses. » Il se redressa, sortit ses mains des poches et les tint à demi levées. Pardonnez-moi, peut-être j'ai pu vous blesser. Mais ce que je disais, je le pense avec un très bon cœur. Je le pense par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour l'Allemagne et pour la France. Je pense, après mon père, que le soleil va luire sur l'Europe. Il fit deux pas et inclina le buste. Comme chaque soir, il dit « Je vous souhaite une bonne nuit ». Puis il sortit.
Ces longs monologues deviennent pénibles.
Moi, je n'y fais pas attention.
Tu sais que je ne supporte pas d'offenser un homme, fut-il un ennemi.
C'est nous qui sommes offensés. Et puis nous non plus, nous n'avons pas le choix.
Et le silence de la mer est venu comment?
J'avais eu plusieurs expériences. La première, ça avait été mon retour chez moi, qui était occupé par un officier allemand. Et cet officier allemand avait été extrêmement aimable pour me rendre à la maison. J'ai retrouvé une maison tout à fait en ordre, les tapis étaient retournés pour ne pas les abîmer. Ensuite, il était toujours dans le village et je le rencontrais de temps en temps. Il me saluait. Plutôt, la première fois, il m'a salué. Moi, je n'étais pas préparé, je n'ai pas salué. Et puis, la deuxième fois où je l'ai rencontré, je n'étais pas seul. Et la personne avec qui j'étais n'a pas salué, ne m'a pas rendu le salut, là, moi non plus. Alors, n'ayant pas salué deux fois, je ne pouvais plus saluer du tout. Parce que la troisième fois, ça aurait eu l'air d'être un regret, de lui dire « Ah, oh, je me suis mal conduit, je ne pouvais tout de même pas ». Et c'est ce qu'on retrouvera dans l'attitude de la nièce. Souvent, on ne l'a pas comprise, cette attitude. On se demande comment elle a pu garder le silence si longtemps. Eh bien, moi, j'en avais eu cette expérience. Du moment qu'elle ne lui a pas parlé les premiers jours, elle ne pouvait plus lui parler jamais.
les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant des blêmes quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte. Rumeur-là vient de la ville. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ci, de là, pareil à la feuille morte.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Au cours de ses monologues, Werner von Ebernach témoigne de son amour pour la France. Mais sous son éloge passionné de la culture française se devine une autre déclaration d'amour adressée à la jeune fille de la maison. Il dit une fois, c'était dans les premiers temps de ses visites, où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci? Bien sûr, le bois, la flamme, la cheminée se ressemblent, mais non la lumière. Celle-ci dépend des objets qu'elle éclaire, des habitants de ce fumoir, des meubles, des murs, des livres sur les rayons. Pourquoi aimais-je tant cette pièce? Dit-il pensivement. Elle n'est pas si belle. Pardonnez-moi. Il rit. Je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée, mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme. Il était devant les rayons de la bibliothèque. Ses doigts suivaient les reliures d'une caresse légère. Balzac, Barrès, Baudelaire, Beaumarchais, Boileau, Buffon, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Fénelon, Flaubert, La Fontaine, France, Gautier, Hugo. Quel appel ? Dit-il avec un rire léger et hochant la tête. Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Rabelais, ni Racine, ni Pascal, ni Stendhal, ni Voltaire, ni Montaigne, ni tous les autres. Il continuait de glisser lentement le long des livres, et de temps en temps il laissait échapper un imperceptible « Ah !» quand je suppose il lisait un nom auquel il ne songeait pas. « Les Anglais, reprit-il, on pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens, Dante, l'Espagne, Cervantes. Et nous, tout de suite, Goethe. Après, il faut chercher. » Mais quand on dit « et la France », alors qui surgit à l'instant? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais ou quel autre? Ils se pressent. Ils sont comme une foule à l'entrée d'un théâtre. Il se retourna et dit gravement « mais pour la musique, alors c'est chez nous. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart, quel nom vient le premier ?»« Et nous, nous sommes faits la guerre », ajouta-t-il lentement en remuant la tête. Il revint à la cheminée, ses yeux souriants se posèrent sur le profil de ma nièce. « Mais c'est la dernière. Nous ne nous battrons plus. Nous nous marierons. » Après un silence, il poursuivit d'un ton soudain grave. « Quand nous sommes entrés dans la ville de Sainte, j'étais heureux que la population nous recevait bien. J'étais très heureux. Je pensais que ce sera facile. Et puis j'ai vu que ce n'était pas cela du tout, que c'était la lâcheté. J'ai méprisé ces gens. Et j'ai craint pour la France. Je pensais, est-elle vraiment devenue ainsi? Non. Non, je l'ai vue ensuite. Et maintenant je suis heureux de son visage sévère. Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. Il regardait ma nièce, le pur profil têtu et fermé, en silence, avec une insistance grave. Ma nièce le sentait. Je la voyais légèrement rougir, un pli peu à peu s'inscrire entre ses sourcils. Ses doigts tiraient un peu trop vivement sur l'aiguille, au risque de rompre le fil. « Oui, » reprit la lente voix bourdonnante. « C'est mieux ainsi, beaucoup mieux. » Cela fait des unions solides, des unions où chacun gagne de la grandeur. Il y a un très joli conte pour les enfants que j'ai lu, que vous avez lu, que tout le monde a lu. Je ne sais pas si le titre est le même dans les deux pays. Chez moi, il s'appelle Das Tier und die Schöne. La belle et la bête.
Belle, il ne faut pas me regarder dans les yeux. Ne craignez rien, vous ne me verrez jamais. Sauf chaque soir. À 7 heures.
Pauvre belle. La bête la tient à sa merci, impuissante et prisonnière. Elle lui impose son implacable et pesante présence. La belle est fière, digne. Elle s'est fait dure. Mais la bête vaut mieux qu'elle ne semble. Elle est maladroite, brutale, mais elle a du cœur.
Il ne faut pas me regarder dans les yeux.
Oui. Elle a une âme qui aspire à s'élever. Si la belle voulait... La belle met du temps à vouloir. Pourtant, peu à peu, elle découvre au fond du geôlier haï une lueur, un reflet où peuvent se lire la prière et l'amour. Elle cesse de haïr. Elle tend la main. Aussitôt, la bête se transforme. Le sortilège est dissipé. C'est maintenant un chevalier très beau et très pur, délicat et cultivé, que chaque baiser de la belle part de qualité toujours plus rayonnante. Leur bonheur est sublime. Leurs enfants sont les plus beaux que la terre ait portés. N'aimiez-vous pas ce conte? Moi, je l'aimais toujours. Il me faisait pleurer. Encore aujourd'hui, je suis ému quand j'en parle. Il se tut, respira avec force et s'inclina. Je vous souhaite une bonne nuit. Un jour, le flot de paroles laisse place à une autre mélopée. On jouait ses 8e préludes et fugues que travaillait ma nièce avant la débâcle. Le cahier était resté ouvert à 7 pages, mais jusqu'à ce soir-là, ma nièce ne s'était pas résolue à de nouveaux exercices. Qu'elle les eût repris souleva en moi du plaisir et de l'étonnement. Quelle nécessité intérieure pouvait bien l'avoir soudain décidée? Ce n'était pas elle. Elle n'avait pas quitté son fauteuil ni son ouvrage de couture. Je considérais le long buste devant l'instrument, la nuque penchée, les mains longues, fines, nerveuses. Il joua seulement le prélude. Il se leva, rejoignit le feu. « Rien n'est plus grand que cela, » dit-il de sa voix sourde qui ne s'éleva pas beaucoup plus haut qu'un murmure. « Grand, ce n'est pas même le mot hors de l'homme, hors de sa chair. Cela nous fait comprendre, non? Deviner, non. Pressentir ce qu'est la nature divine et inconnaissable, la nature désinvestie de l'âme humaine. Oui, c'est une musique inhumaine. » Il parut dans un silence songeur explorer sa propre pensée. Bach. Il ne pouvait qu'être allemand. Notre terre a ce caractère inhumain, je veux dire, pas à la mesure de l'homme. Cette musique-là, je l'aime, je l'admire, elle me comble. Elle est en moi comme la présence de Dieu, mais ce n'est pas la mienne. Je veux faire, moi, une musique à la mesure de l'homme. Cela aussi est un chemin pour atteindre la vérité, c'est mon chemin. Je n'en pourrais suivre un autre. Cela, maintenant, je le sais tout à fait. Depuis quand? Depuis que je vis ici. Il faudra que je vive ici longtemps. Et il se tut. Il se tourna vers nous. Sa bouche souriait, mais non ses yeux qui regardaient ma nièce. Il y avait dans le château voisin de chez nous une jeune fille. Elle était très belle et très douce. Mon père se réjouissait si je l'épouserais. Quand il est mort, nous étions presque fiancés. On nous permettait de faire de grandes promenades, tous les deux seuls. Un jour, nous étions dans la forêt, allongés sur la mousse au milieu des fougères. Nous ne parlions pas. Soudain, la jeune fille poussa un petit cri. « Oh, Werner, le vilain petit moustique, il m'a piqué sur le menton. » Puis je lui vis faire un geste de la main. « J'en ai attrapé un, Werner. Oh, regardez, je vais le punir. » Je lui arrache les pattes l'une après l'autre. Et elle le faisait. Heureusement, continuait-il, elle avait beaucoup d'autres prétendants. Je n'eus pas de remords. Mais aussi, j'étais effrayé pour toujours à l'égard des jeunes filles allemandes et leur caractère inhumain. Ainsi sont aussi chez nous les hommes politiques. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu m'unir à eux. Non, je préférais rester toujours dans ma maison. Ce n'était pas bon pour le succès de la musique, mais tant pis, le succès est peu de chose auprès d'une conscience en repos. Et vraiment, je sais bien que mes amis et notre Führer ont les plus grandes et les plus nobles idées, mais je sais aussi qu'ils arracheraient aux moustiques les pattes l'une après l'autre. C'est cela qui arrive aux Allemands toujours lorsqu'ils sont très seuls. L'instinct destructeur remonte toujours. Et qui de plus seul que les hommes du même parti quand ils sont les maîtres? Heureusement, maintenant, ils ne sont plus seuls, ils sont en France. La France les guérira. Et je vais vous le dire, ils le savent. Ils savent que la France leur apprendra à être des hommes vraiment grands et purs. Il se dirigea vers la porte. Il dit d'une voix retenue: mais pour cela, il faut l'amour. Un amour partagé. Je vous souhaite une bonne nuit.
La radiodiffusion nationale vous parle.
Mesdames, messieurs.
Radio Paris, après l'armistice de juin 1940.
Radio Paris a fait un reportage dans les différents quartiers de la capitale. Nous avons toute l'après-midi parcouru les rues de Paris et nous avons constaté que la vie a presque normalement repris. Les cinémas sont ouverts, les terrasses de café sont pleines de monde, les théâtres, cabarets plutôt, sont déjà réouverts et les dimanches, les gens font queue devant les guichets et on sent que, au fond, rien n'est changé, à part dans les rues. L'uniforme des troupes allemandes se mélange avec les robes d'été des jolies femmes.
Au printemps 1941, l'Allemand évoque la situation politique de la France et leur livre une réflexion lucide sur le rôle qu'a joué le maréchal Pétain. J'ai descendu ceci pour vous, c'est une page de Macbeth. Dieu, quelle grandeur! Il ouvrit le livre. C'est la fin. La puissance de Macbeth file entre ses doigts avec l'attachement de ceux qui mesurent enfin la noirceur de son ambition. Et il lut lentement avec une pesanteur pathétique. Angus. Maintenant, il sent ses crimes secrets collés à ses mains. À chaque minute, des hommes de cœur révoltés lui reprochent sa mauvaise foi. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Désormais, il voit son titre pendre autour de lui, flottant comme la robe d'un géant sur le nain qui l'a volé. Il releva la tête et rit. Je me demandais avec stupeur s'il pensait au même tyran que moi. Mais il dit « N'est-ce pas là ce qui doit troubler les nuits de votre amiral ? Je plains cet homme, vraiment, malgré le mépris qu'il m'inspire comme à vous. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Un chef qui n'a plus l'amour des siens est un bien misérable mannequin. Seulement, pouvait-on souhaiter autre chose ? Qui donc sinon un aussi morne ambitieux eût accepté ce rôle ? Or, il le fallait. Oui, il fallait quelqu'un qui accepta de vendre sa patrie parce que aujourd'hui et pour longtemps, la France ne peut tomber volontairement dans nos bras sans perdre à ses yeux sa propre dignité. Souvent, la plus sordide entremetteuse est ainsi à la base de la plus heureuse alliance. L'entremetteuse n'en est pas moins méprisable, ni l'alliance moins heureuse. Il fit claquer le livre en le fermant. Puis son long visage éclairé d'une expression heureuse, il dit « Je dois prévenir mes hôtes que je serai absent pour 2 semaines. Je me réjouis d'aller à Paris. » C'est maintenant le tour de ma permission et je la passerai à Paris pour la première fois. C'est un grand jour pour moi, c'est le plus grand jour. En attendant un autre que j'espère avec toute mon âme et qui sera encore un plus grand jour. Je saurai attendre des années s'il le faut. Mon cœur a beaucoup de patience.
Tous deux adoraient la belle prisonnière des soldats. À l'échelle et lequel guettait en bas. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fût de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui ne croyait pas. Tous les deux étaient fidèles, des lèvres du cœur et des bras. Et tous les deux disaient qu'elle vive et qui vivra verra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat, fou qui songe à ses grêles, au cœur du commun combat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Du haut de la citadelle, la sentinelle tira. Par deux fois, et l'un chancelle, l'autre tombe qui mourra. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, ils sont en prison, lequel a le plus triste grabat, lequel plus que l'autre gèle, lequel préfère les rats, celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Un rebelle est un rebelle, de sanglots font un sale glas. Et quand vient l'aube cruelle, passe de vie à trépas. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, répétant le nom de celle qu'aucun des deux ne trompe pas, et leur sang rouge ruisselle, même couleur, même éclat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas. Il coule, il se mêle à la terre qu'il aima. Pour qu'à la saison nouvelle, mûrisse un raisin muscat. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, qu'importe comment s'appelle cette clarté sur leurs pas, que l'un fut de la chapelle et l'autre s'y déroba. Celui qui croyait au ciel, celui qui n'y croyait pas, l'alouette et l'hirondelle, la rose. Et le résultat.
Comment ça va chez toi?
Ça va.
Il paraît que vous hébergez un Allemand.
Il n'héberge pas, il s'est installé dans une des chambres.
Il dit comment?
Rien à en dire.
Ouais, c'est un chleu, quoi. Déjà bien beau qu'il vous ait pas foutu dehors, hein.
Merci.
Hé hey. Tu serais mieux t'installer ici, moi ça m'aurait pas déplu.
Allez, faut que j'y aille. Mon grand-père qui m'attend. À bientôt.
Hé hey, demain, on va se balader sur la plage avec des copains. Tu voudrais pas venir avec nous?
Non, demain, je peux pas. Pour une autre fois.
Salut.
Salut.
6 mois ont passé depuis l'arrivée de l'officier. Nous voici au dénouement de l'histoire. Au début de l'été, comme prévu, Werner von Ebrenack se rend à Paris pour y rencontrer ses amis du parti et préparer avec eux l'heureux mariage de l'Allemagne et de la France. À son retour, le changement est brutal. C'est le temps des désillusions et des décisions radicales. Il rend une dernière visite à ses hôtes, au cours de laquelle, miraculeusement, le silence se rompt autour d'un seul mot, un mot d'adieu. Les pas traversèrent l'antichambre et commencèrent de faire gémir les marches. L'homme descendait lentement. Et quand la dernière marche eut crié et qu'un long silence suivit, ma nièce leva la tête et attacha sur moi un regard transparent et inhumain de grand-duc. Je ne crois pas que ce silence ait dépassé quelques secondes, mais ce furent de longues secondes. Il me semblait voir l'homme derrière la porte, retardant le moment où, par le seul geste de frapper, il allait engager l'avenir. Enfin, il frappa. Je m'attendais à voir, comme autrefois, la porte aussitôt s'ouvrir, mais elle resta close et alors je fus envahi par une incoercible agitation d'esprit. Pourquoi attendait-il qu'on réponde ? Pourquoi ce changement ? Quels étaient ce soir, les commandements de la dignité ? Je regardais ma nièce. Elle était très pâle et je vis se lever sur ses lèvres une contraction douloureuse. Et moi, devant ce drame intime soudain dévoilé, je perdis mes dernières forces. Ma nièce dit « Il va partir » d'une voix basse et si complètement découragée que je n'attendis pas davantage et dit d'une voix claire « Entrez, monsieur !» Pourquoi ajoutais-je « monsieur » Pour marquer que j'invitais l'homme et non l'officier ennemi ? Peu importe, il entra. J'imaginais le voir paraître en civil et il était en uniforme. Je dirais volontiers qu'il était plus que jamais en uniforme, tant il m'apparut clairement que cette tenue, il l'avait endossée dans la ferme intention de nous en imposer la vue. Il se tenait si droit et si raide que j'en étais presque à douter si j'avais devant moi le même homme, et que pour la première fois je pris garde à sa ressemblance surprenante avec l'acteur Louis Jouvet. « Je dois vous adresser des paroles graves. » Ma nièce lui faisait face, mais elle baissait la tête. Elle enroulait autour de ses doigts la laine d'une pelote, tandis que la pelote se défaisait en roulant sur le tapis. Ce travail absurde était le seul sans doute qui pût encore s'accorder à son attention abolie. L'officier reprit, l'effort était si visible qu'il semblait que ce fût au prix de sa vie. « Tout ce que j'ai dit ces 6 mois, tout ce que les murs de cette pièce ont entendu, il faut l'oublier. » La jeune fille lentement laissa tomber ses mains au creux de sa jupe, où elles demeurèrent penchées et inertes, comme des barques échouées sur le sable, et lentement, elle leva la tête, et alors pour la première fois, elle offrit à l'officier le regard de ses yeux pâles. J'ai vu ces hommes victorieux, je leur ai parlé, ils ont ri de moi. Ils ont dit, nous ne sommes pas des musiciens, la politique n'est pas un rêve de poète. Pourquoi supposez-vous que nous avons fait la guerre ? Pour leur vieux maréchal, ils ont encore ri. Nous ne sommes pas des fous ni des niais, nous avons l'occasion de détruire la France, elle le sera. Pas seulement sa puissance, son âme aussi. Son âme surtout. Son âme est le plus grand danger. C'est notre travail en ce moment, ne vous y trompez pas, cher ami. Nous la pourrirons par nos sourires, nous ferons de la France une chienne rampante. » Il se tut. Il semblait essoufflé. Ses yeux s'accrochèrent aux yeux pâles et dilatés de ma nièce, et il dit d'un ton bas, intense et oppressé, « Il n'y a plus d'espoir. » Le silence tomba une fois de plus. Une fois de plus, mais cette fois combien plus obscur et tendu. Sous la calme surface des eaux, je sentais grouiller la vie sous-marine des sentiments cachés, des désirs et des pensées qui se nient et qui luttent. J'avais un ami sensible et romantique, et il est devenu le plus enragé de tous. Il riait et me disait « Ha ha, les Français ont la grande peur maintenant, ha ha, ils craignent pour leur poche et pour leur ventre. Ils ne pensent qu'à ça. Nous les flattons et les endormons, ha ha, ce sera facile. Nous échangeons leur âme contre un plat de lentilles. » Werner respira et reprit. J'ai dit « Avez-vous mesuré ce que vous faites? L'avez-vous mesuré? Il m'a dit, c'est la vie ou la mort. Nous devons bâtir pour dans 1000 ans. D'abord, il faut détruire. Ses yeux s'ouvrirent très grands, comme sur le spectacle de quelque abominable meurtre. Ils feront ce qu'ils disent, s'écria-t-il, avec méthode et persévérance. Je connais ces diables acharnés. Il secoua la tête, un murmure passa entre ses dents serrées, le haut gémissant et violent de l'amant trahi. Il tendit une main vers ma nièce, vers moi. L'expression de son visage se figea dans une sorte d'énergie farouche. Ses lèvres s'entr'ouvrirent et je crus qu'il allait nous lancer je ne sais quelle exhortation. Je crus qu'il allait nous encourager à la révolte, mais pas un mot ne franchit de ses lèvres. Puis il se prit les tempes et le front. Ils m'ont dit, c'est notre droit et notre devoir. Notre devoir. Au carrefour, on vous dit, prenez cette route-là. Or, cette route, on ne la voit pas s'élever vers les hauteurs lumineuses des cimes, on la voit descendre vers une vallée sinistre, s'enfoncer dans les ténèbres fétides d'une lugubre forêt. Oh Dieu, montrez-moi où est mon devoir. Il dit, il cria presque, c'est le combat, la grande bataille du temporel contre le spirituel. Il regardait fixement l'ange de bois sculpté au-dessus de la fenêtre, l'ange extatique et souriant. Soudain, son expression sembla se détendre, le corps perdit de sa raideur. « J'ai fait valoir mes droits, » dit-il avec naturel. « J'ai demandé à rejoindre une division en campagne sur le front russe. Cette faveur m'a été enfin accordée. Demain, je suis autorisé à me mettre en route. » Je crus voir flotter sur ses lèvres un fantôme de sourire quand il précisa « Pour l'enfer. » Je pensais... Ainsi, ils se soumettent. Voilà donc tout ce qu'ils savent faire. Ils se soumettent tous, même cet homme-là. Le visage de ma nièce me fit peine. Il était d'une pâleur lunaire. Elle esquissait la moue tragique des masques grecs, et je vis à la limite du front et de la chevelure jaillir des perles de sueur. Je ne sais si Werner von Ebernach-Lévy. Il saisit le bouton de la porte. « Je vous souhaite une bonne nuit. » Je crus qu'il allait fermer la porte et partir, mais non. Il regarda ma nièce, il la regardait. Il dit, il murmura, « Adieu. » Il ne bougea pas. Il restait tout à fait immobile. Et dans son visage immobile et tendu, les yeux étaient plus encore immobiles et tendus, attachés aux yeux trop ouverts, trop pâles de ma nièce. Cela dura combien de temps? Dura jusqu'à ce qu'enfin, la jeune fille remua les lèvres. Les yeux de Werner brillèrent. J'entendis « Adieu ». Il fallait avoir guetté ce mot pour l'entendre, mais enfin je l'entendis. Von Ebernach aussi l'entendit. Et il se redressa, et son visage et tout son corps semblèrent s'assoupir. Et il sourit, de sorte que la dernière image que j'eus de lui fut une image souriante. Et la porte se ferma, et ses pas s'évanouirent au fond de la maison.
Un de mes amis, se trouvant un jour dans un restaurant,
Vercors.
Derrière deux Allemands qui parlaient en allemand, mais lui les comprenait bien. Et l'un d'eux se plaignait, s'indignait presque, qu'on laissât la France se relever, alors qu'on avait l'occasion de la détruire pour toujours. Et l'autre lui avait dit, mais tu ne te comprends donc pas qu'on est en train de les rouler. Il faut les endormir pour pouvoir les détruire. Alors j'avais imaginé qu'un Allemand qui, lui, aurait été vraiment un ami de la France et qui aurait cru à ce mariage possible, aurait eu là une déception affreuse. Et ça m'a donné mon sujet.
Pour conclure, rendons hommage au personnage muet du roman, la mystérieuse jeune fille au silence obstiné. À travers le personnage de la nièce, Jean Brulaire évoque le souvenir d'un amour de jeunesse, un amour impossible pour une jeune fille de 15 ans. Voici le portrait qu'il fait d'elle dans ses mémoires intitulées « La bataille du silence » publié en 1967. Dans le passage suivant, il se revoit jeune soldat au moment de la démobilisation. Peu après la déclaration de Pétain en mai 40, les soldats doivent cesser le combat et rendre les armes. Son bataillon se replie dans un petit village de la Drôme où il est hébergé aux côtés d'une famille lilloise évacuée. Parmi les membres de cette famille en exil, il croit reconnaître un visage. Des années plus tard, lorsque l'écrivain rédige ses souvenirs, l'émotion de cet instant reste intacte. Appuyée contre le mur, se tenait une jeune fille qui nous regardait approcher en souriant. Tout d'abord, je ne vis d'elle que les yeux, noirs, brillants, humides. Leur beauté retenait les miens à ne distinguer du visage qu'un ovale harmonieux aux pommettes un peu hautes. La ressemblance était si fantastique que je restais saisi. Et je me retrouvais à Combloux, 20 ans plus tôt, villégiature encore très peu connue dans le massif du Mont-Blanc. Je venais rejoindre mes parents pour y passer nos vacances. Je descendais du car, une jeune fille était appuyée contre un arbre, et de ses beaux yeux noirs, brillants, humides, elle me regardait approcher en souriant. Elle avait 15 ans, l'âge de Juliette. J'en avais 18, l'âge de Roméo. Et si je fus frappé par sa beauté, c'était à mes yeux celle d'une enfant, simple promesse d'avenir. Et bientôt, tous mes soins tournaient autour d'une blonde un peu stupide au teint de demoiselle anglaise qui pouvait bien avoir 19 ans. Néanmoins, quand au cours des constantes réunions de la jeunesse de l'hôtel, je croisais le regard profond des yeux de sombre orient, non pas tout à fait noir, couleur de terre labourée sous la pluie, il pénétrait en moi une grande profondeur aussi, et j'en restais troublé. Elle s'appelait Stéphanie, et ce nom de grand-mère pour une fille si jeune en prenait un parfum singulier. Un matin, vers midi, je rentrais à l'hôtel d'une promenade solitaire dans la forêt avoisinante. J'entendis à travers la porte du fumoir le son d'un piano. Quelqu'un travaillait du Chopin. J'allais passer, la beauté des accords me retint. C'était l'étude en mi majeur. Elle était jouée avec une puissance, une intensité, une douleur aussi, qui, outre des dons exceptionnels, révélait un être trop sensible, longuement blessé par la vie. Je me demandais quelle virtuose venait d'arriver à l'hôtel, imaginant un homme dans la force de l'âge. Je n'osais pas même ouvrir la porte et j'écoutais la fin dans le couloir. Sur les derniers accords, les dernières vibrations, je me décidai quand même à risquer un œil. Au piano, je reconnus d'abord une vaste toison, cheveux bleus, pavillon de ténèbres tendues. Stéphanie se retourna. Elle me vit et me sourit. J'étais ébloui. À peine si je pouvais voir encore en elle sa jeunesse de corps, tant sa maturité d'âme me semblait dépasser la mienne. Je lui demandai si elle voulait bien rejouer le morceau pour moi. Elle s'exécuta sans prière, avec simplicité. Dès ce jour, elle n'était jamais au piano, même pour des exercices, que je ne fusse à l'écouter. J'aspirais à un tête-à-tête sans savoir ce que j'en ferais. Je n'allais quand même pas tomber amoureux d'une enfant. Souvent, nous partions à 7 ou 8 garçons et filles dans la forêt. Nous allions à la cueillette de myrtilles et nous parlions beaucoup. Une fois, je m'aperçus que Stéphanie ne se mêlait pas à ces palabres. À plat ventre, sur la mousse en contrebas, elle arrachait distraitement des brindilles, levant incessamment sur moi ses yeux qui brillaient dans l'ombre. J'osais à peine croiser ce regard insistant, tant il me semblait que si le mien s'y attachait, il ne pourrait se séparer. J'avais déjà vécu maintes amourettes, mais la nature des sensations que ce regard remuait en moi, je ne l'avais pas connue encore. Un soir, je ne sais plus de quelle sottise j'avais pu la blesser, je la vis dans une crispation pétrir les fleurs des champs qu'elle tenait à la main, que peut-être j'avais cueillies pour elle. Et elle tourna vers moi dans son visage pâli, des yeux remplis de douleur, deux puits nocturnes d'une telle détresse, un don de soi si total et si exposé, d'une telle nudité, qu'après 40 ans j'en garde encore le souvenir impérissable et frissonnant. Ce fut le seul aveu qui se fit entre nous. Mais de ce jour, tout était dit. Et pendant 1 mois, nous nous sommes aimés ainsi dans le silence. Une fois. Une seule fois qu'étant seule, elle avait lu sur mon visage le désir irrésistible de me déclarer, elle m'avait arrêté d'un murmure. « Non, Jean, nous sommes trop jeunes. » Une petite main tremblante, toute tachée de myrtilles, s'était posée sur la mienne. J'y avais couché ma joue un long moment, et je me l'étais tenue pour dit. Notre amour silencieux subit ensuite les avatars de toutes les amours, les joies, les malentendus, les dépits, les raccommodements. Ceci, de se faire toujours à demi-mot, sous lesquels palpitaient des sentiments extrêmes, prenait une intensité, une violence retenue qui ravageait nos cœurs. La force, la hauteur, la pureté surtout d'un tel amour, seule l'enfance en est capable, je suppose. Il a duré 4 semaines, sans que nous ayons jamais brisé par un mot, par un geste, la réserve que nous nous étions mutuellement promise. Mais pendant 40 ans, Il n'est jamais tout à fait mort en moi.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission réalisée par Xavier Pestugia avec Valérie Lavalard à la technique a été préparée par Estelle Gap, Laura Elmaki et Léa Dupuy-Henquin. Bonne soirée, à la semaine prochaine.